7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation, comme chaque vendredi, et plus spécifiquement des adolescents. Vous savez, c'est ceux qui ne racontent plus rien à leurs parents, qui s'énervent parfois vite, voire qui répondent sèchement. Bref, l'ambiance à la maison avec des adolescents peut se transformer en champ de bataille. Alors, comment communiquer avec les adolescents? Comment renouer le lien, le comprendre, les comprendre? Comment accepter aussi leur recherche d'indépendance? Nous allons essayer de pousser en douceur la porte secrète de ces adolescents qui sont bien souvent réfugiés dans le silence. Souvent, on a l'habitude de dire, bah oui, il tire la tronche, il fait la tête, on ne sait pas très bien pourquoi. Et bien sûr, on attend vos témoignages, que vous soyez parents, grands frères, éducateurs. Comment communiquez-vous avec les adolescents? Appelez-nous surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Alors pour dialoguer avec vous dans le studio, Audrey Acoun, bonjour.
Bonjour.
Audrey Acoun, vous êtes psychothérapeute, thérapeute familiale. Vous avez publié pas mal de livres autour des jeunes, des enfants avec Isabelle Payot, Apprendre autrement avec la pédagogie positive ou bien Keep calm et réussir tes examens. Ben, c'est un peu la saison, c'est vrai que ça n'arrange rien au moral des adolescents quand ils préparent des examens. Et puis, il y a aussi votre blog La Fabrique à Bonheur. Yannick Fleury, bonjour.
Bonjour.
Vous faites du coaching éducatif dans une société privée qui s'appelle Pascal Maquin Coaching. Vous travaillez en fait avec des adolescents depuis que vous avez vous-même 17 ans.
Exactement. Ouais. J'ai commencé assez jeune.
Et vous faites toujours très jeune d'ailleurs.
C'est vrai?
Oui.
C'est gentil, merci.
Vous avez quel âge en fait?
28 ans.
Ouais. Donc l'adolescence, c'était il n'y a pas si longtemps que ça pour vous.
Bah écoutez, l'adolescence, effectivement, pour moi, c'était il n'y a pas très longtemps. Après, c'est pas une période d'âge qui arrive pile poil à 11 ans et qui se termine pile poil à 18 ans.
Voilà. C'est clair.
Donc pour moi, je dirais que c'est terminé un peu plus tôt que les autres.
Pour parler avec des ados, c'est plus simple quand on a 28 ans comme vous?
Oui. Oui, je pense ça peut aider, effectivement.
Et en fin d'émission, on aura notre rubrique « Les ados commentent l'actu et la campagne présidentielle ». Alice Milot est allée questionner des lycéens d'un quartier populaire de la capitale sur leur pronostic à 2 jours du premier tour. Ça ne vaut pas forcément moins que les instituts de sondage, finalement. Voilà.
C'est sûr.
Appelez-nous maintenant pour la communication avec les adolescents. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages. Issa à Bamako nous dit « Moi, mon voisin gâtait beaucoup trop son enfant, lui laissant trop de liberté sans jamais en parler avec lui. Et bien, par manque de communication, l'adolescent s'est retrouvé très seul et tombé dans la drogue. » Voilà, en tout cas, c'est l'interprétation d'Issa, mais c'est vrai que le manque de communication peut aboutir à des situations plus compliquées encore que le silence.
Le manque de communication aboutit en général, de toute façon, à des choses qui sont pas forcément très très positives, à des retraits, des isolements, des incompréhensions. Ça laisse grandir l'incompréhension et la frustration. Mais là, dans le témoignage, il y a aussi ce qu'on entend en filigrane, c'est aussi peut-être le manque de structure et le fait que s'il est tombé dans la drogue, donc il y a plein de causes possibles à tomber dans la drogue. Mais c'est vrai que chez les jeunes qu'on rencontre souvent, c'est des jeunes qui sont très angoissés, en perdition et qui vont chercher ailleurs peut-être des choses qu'ils n'ont pas dans leur structure familiale, et notamment cette communication qui est ô combien importante à cet âge-là.
Une communication dans un cadre. Thierno à Dakar nous dit que la communication entre l'ado et ses parents devient difficile à cause de l'influence d'Internet, des fréquentations, de la télévision. La communication est impossible si les parents ne se sentent pas concernés et ouverts par rapport à ce qui se passe dans leur tête, dans la tête de leur ado. Encore faut-il savoir précisément ce qui se passe dans la tête d'un adolescent, non?
Alors ça, même lui, en lui-même, je ne suis pas sûr qu'il sache tout le temps ce qui peut se passer.
Ça commence
dans
bien.
Sa tête, non, effectivement. On a en fait très souvent une facilité à se dire c'était mieux avant notre adolescence, à se dire nous, notre temps, on n'avait pas tous ces problématiques, etc. En fait, on a un regard qui est plus tolérant sur nous et sur notre adolescence, alors qu'en fait, pas du tout. L'ado actuel vit les mêmes choses et les mêmes changements que nous ou que les parents ont pu le vivre il y a quelques années en arrière.
Alors, communiquer avec ces adolescents, on a aussi des messages très contrastés. Amadou à Bangui en République centrafricaine, la violence est la solution la plus efficace en Afrique. l'Afrique. Voilà, bah comme ça au moins c'est clair. Djibril à Abidjan nous dit que la communication avec son enfant est de plus en plus difficile au fur et à mesure des années. Appelez-nous maintenant, on a envie de discuter avec vous de vive voix au 33 1 84 22 71 71.
Milliards de voisins.
C'est sur RFI.
C'est Ndoya qui nous appelle, la toute première voisine, 24 ans, à Dakar, en direct chez 7 milliards de voisins. Bonjour Ndoya.
Bonjour Emmanuel, je suis très contente d'être la première auditrice, la première participatrice à cette émission.
Bon, vous êtes une ancienne adolescente.
Oui, mais je dirais pas ancienne comme ça, parce que en fait, moi, durant mon adolescence, je n'ai pas été trop... Je n'ai pas eu des états d'âme, comme le font les jeunes.
Oui.
J'étais trop timide. Mmh. Je restais toujours dans mon coin à feuilleter des livres, à lire ou bien à dessiner. Je n'avais pas d'amis.
Ah,
mais
oui.
Par contre, je m'entendais très bien avec mon papa.
Mmh.
On parlait, je lui parlais de mes projets, de mes amis, ce que je faisais au collège, au lycée. Et ce que j'envisageais de faire dans ma vie.
Ouais.
Mais par contre, le paradoxe, là où il y a un paradoxe, c'est que j'étais la fille aînée de ma famille. Donc, en amour, je devais avoir une bonne communication avec ma maman.
Ouais.
Mais ce n'est pas le cas. J'étais tout le temps enfermée sur moi-même. Et je voyais tout le temps que j'ai tous les efforts du monde pour communiquer avec moi.
Ah oui, vous ne racontiez rien à votre maman, en fait.
Non, je ne parviens pas à lui donner l'occasion de venir vers moi. Je savais qu'il faisait les efforts pour venir me parler, mais je ne lui donnais pas cette opportunité.
Ah oui.
Mais quand j'ai eu le bac pour partir à l'université, quelques mois après, on a rétabli une communication vraiment pure et vraiment intéressante. Parce que là, il y avait une distance.
Ah
mais
bon?
Moi, le problème qui se pose, à lui, le problème qui se pose, c'est que dès que je retourne à la maison, on ne savait plus à communiquer comme ça. Ça se faisait lorsque je suis loin de la maison. Donc, je me demandais où il y a beaucoup de problèmes. C'est de mon côté ou bien du temps. Donc, je ne comprenais pas à la fin.
Mais visiblement, vous dites qu'elle a fait des efforts à l'adolescence pour essayer de provoquer des situations pour que vous vous parliez et que ça ne marchait pas. Mais alors là, vous communiquez bien avec votre mère quand vous n'êtes pas avec elle, si j'ai bien compris. Donc, comment? Alors, par texto, c'est ça? Par des messages
Oui, par téléphone, elle m'appelle, elle s'inquiète quand je suis malade, tout ça. Alors que quand je suis chez moi, bon, elle n'essaie même pas de... Elle me montre que bon, tu es une grande maintenant, tu peux te débrouiller, tout ça. Alors que quand je suis loin d'elle, et c'est qui est carrément, et moi, ça devient un paradoxe pour moi. Je me dis, c'est quoi le problème?
C'est la question de Ndoya, 24 ans et pas si lointainement adolescente quand même. Hein.
En fait, c'est une situation qu'on retrouve, mais très, très fréquemment et que beaucoup d'adultes, même aujourd'hui, vivent encore. On a tous vécu souvent des repas de famille, vous savez, les repas familiaux, ou alors des vacances familiales, ou quand on revient dans la maison familiale, nos parents nous traitent comme si on avait encore 5, 8, 10 ans, 12 ans, il y a quelque chose de très très régressif qui est lié vraiment à cette structure familiale et à la maison et à la question de l'autorité du parent qui a un peu
là c'est un peu l'inverse hein, de
et
ce
là,
que dit
et non, non, et là ce qu'elle dit c'est que quand elle s'extrait, quand elle est loin de sa mère finalement, les rapports se rééquilibrent et elle s'émancipe plus finalement, il y a plus de communication, sa mère s'inquiète, mais sa mère s'inquiète aussi, peut-être lui parle plus comme à une adulte et ça c'est la distance qui fait ça, alors que dès qu'elle retourne chez sa mère, hop, ça revient comme avant quand elle était petite, finalement. C'est ça, Ndoya?
Exactement. Ouais. Elle a très bien dit la chose.
Mais ça c'est normal. En fait, il y a pas vraiment de problème. On est à peu près, enfin, on est souvent confronté à ce genre de situations-là. Et il faut pas forcément chercher un problème. Il faut profiter des moments où vous sentez cette liberté, cette émancipation, et peut-être réussir quand même à mettre quelques limites quand vous vous retrouvez chez votre maman. Vous avez le droit de dire oui, non, bah ça, quand même, ça, j'accepte pas. Hein. J'accepte
mais
pas
alors, tout de même, en même temps, il y a des adolescentes comme ça, Yannick Floury, des filles qui communiquent mieux à l'adolescence avec leur papa, aussi stupéfiant que ça puisse paraître, qu'avec leur maman.
Alors c'est vrai, c'est aussi l'inverse aussi vrai pour les enfants, pour les garçons avec leur maman. Je dirais que c'est plutôt dans ces cas-là une recherche d'appartenance avec la différence qu'ils ont en grandissant. Et là donc du coup ils vont chercher à comprendre un peu comment le monde tourne autour d'eux et pouvoir se raccrocher de leur papa, alors qu'ils ont toujours connu un petit peu finalement les ordres ou les mots de la maman. Et dans leur entourage, ils n'ont pas forcément aussi au sein des établissements scolaires forcément des rencontres ou des regards d'adultes référents masculins. Donc ça peut aider l'adolescente à agir et à comprendre certaines situations. Oui.
Bon, Ndoya, ceci dit, aujourd'hui, vous n'êtes plus vraiment soucieuse de ces difficultés de communication qui se rétablissent par intermittence. Alors finalement, les moments où vous êtes à l'université, si j'ai bien compris.
Oui, je suis à l'université, mais maintenant, je ne me plains plus de ça parce que je vois que, le fait que je ne communique pas avec elle ne me fait pas trop de mal. Parce que moi, je me dis, je suis trop attachée à mon papa et quand mon papa est là, moi, pour moi, tout est OK, quoi. Donc, ma maman, je me dis qu'il y a la paix entre nous, donc c'est bon comme ça.
Ouais. Bon, après, il y a des questions Yannick le disait très bien, déjà, d'aller chercher forcément la différence dans le sexe opposé, mais il y a aussi des questions d'affinité. Oui. On est des êtres humains à part entière.
Tout enfant s'est posé la question un jour dans sa vie, est-ce que je préfère mon père ou ma mère?
Oui, et puis ça fluctue.
C'est une question qui est normale, d'ailleurs.
Ça peut fluctuer aussi au cours de la vie. Et de la part du côté des parents, c'est la même chose. Quand on prend des enfants, moi, je peux en parler, j'en ai 4 des enfants, à différentes périodes de ma vie, il y a eu des fois où je m'entendais mieux avec un qu'avec l'autre, et après ça peut changer aussi, donc c'est des phases et c'est des questions d'individualité qui se rencontrent, des rencontres.
Voilà. Et c'est toute la surprise de la vie. Merci beaucoup de nous avoir appelé Ndoya. Alors c'est vrai quand même globalement, là je m'adresse à vous deux spécialistes des jeunes et des adolescents, c'est vrai que ça quand même globalement ça se complique au fil des années, c'est ce que nous disait Djibril à Abidjan. Il dit, moi j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile de communiquer avec mon enfant.
C'est ça, si on se réveille un matin et puis on trouve que notre enfant il a changé.
C'est ça.
Effectivement il a changé, c'est plus notre enfant. C'est notre adolescent. Il peut y avoir une souffrance de l'adolescent à grandir et qui est traduite du coup par une souffrance de l'adulte référent, par exemple du parent en règle générale. Et cette souffrance du parent, elle correspond à nouveau sur la souffrance de l'adolescent. C'est un peu le chien qui se mord la queue, si vous voulez. Donc ça reste assez compliqué de comprendre pourquoi du jour au lendemain mon enfant devient un adolescent.
Surtout qu'il continue à être un moulin à parole avec ses amis.
C'est ça, exactement.
En général, ça fait assez mal de le surprendre parler non-stop avec ses copains et ses copines.
Il y a, si vous voulez, il y a un peu l'idée de la recherche d'indépendance qui arrive. Tout à l'heure, vous avez employé le bon mot, c'est l'émancipation en fait que l'adolescent va chercher. Souvent, on parle d'autonomie. Je suis pas très fan du mot autonomie parce que personne ne veut qu'un adolescent soit gaga, forcément, il va forcément évoluer de lui-même, émanciper, il va chercher...
C'est un mot qui énerve les ados, l'autonomie?
Non, pas forcément, parce que c'est même pas forcément un mot qu'on emploie vraiment avec eux, mais je rejoins Yannick. L'émancipation, elle est aussi psychologique. L'autonomie, on va chercher à ce qu'ils s'habillent tout seuls, qu'ils se lavent tout seuls.
Bon,
a priori, normalement, quand on arrive ado, on a quelques chances quand même qu'ils se lavent et qu'ils mangent tout seuls.
Alors qu'ils se lavent moins, par contre.
Mais moins, oui. Mais ça dépend, parce que dès qu'il commence à y avoir l'autre sexe ou le même sexe, peu importe, mais en tout cas vraiment les relations amoureuses qui rentrent, alors là, ils utilisent beaucoup de savon, beaucoup d'heures devant la glace et ça se réinverse. Mais c'est vrai qu'il y a une petite phase pré-ado où au niveau de l'hygiène, c'est pas forcément toujours ça. Mais sur la question de l'émancipation, c'est aussi qu'un jour, un matin, on se réveille et on a un enfant qui était notre enfant, qui était un peu qu'on voyait comme le prolongement de nous-mêmes, de nos idées, de nos valeurs.
Exactement.
Et tout ça, qui commence à s'opposer. Et là, ça nous fait pas plaisir et ça nous fait un peu peur aussi parce qu'on se dit, oulala,
J'avais tout raté dans la transmission.
Oui, c'est ça. Qu'ai-je engendré? Il n'est pas d'accord avec moi. Parfois, ils ne veulent pas parler. Alors, il ne faut pas faire des généralités parce qu'il y a des ados qui parlent aussi, qui parlent beaucoup et qui racontent, mais qui ne sont pas forcément toujours d'accord. Et puis, il y a cette recherche aussi de l'extérieur et des fréquentations où on commence à avoir des jugements et à se dire, oh là, et parce qu'on est inquiet en fait, et à se dire, oh là là, il a des mauvaises fréquentations, tout ça.
Alors, tout de même, les adolescents dont on a l'impression qu'en permanence, ils font un peu la tête, c'est-à-dire que c'est une espèce d'attitude attitude un peu maussade, comme ça, qui caractérise très souvent les adolescents. C'est pas qu'ils parlent pas, mais en tout cas, ils parlent, mais ils disent pas grand-chose. Hein. Si ça avait un lien avec la pression, avec le discours anxiogène, négatif parfois des parents, c'est une question que je pose et 2 minutes pour y réfléchir. Ça sera juste après une pause musicale. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine, only one at a time. My life, yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh, yeah. Am I wrong to say if she can't dance, then she can't ooh? Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God, so precious, is yours, is mine. Only one at a time. So precious, is yours, is mine. Only one at a time. My life, yeah. Anderson .Paak, Am I Wrong? Mais non, vous n'avez pas tout faux, les parents. Voyons, vous aimez vos enfants, mais c'est vrai que parfois, c'est difficile de rétablir la communication avec son adolescent. On en discute avec vous, Audrey Hakoun et Yannick Flory. Alors, et si les adolescents se muraient dans le silence ou dans une certaine attitude maussade pour résister à la pression dont ils se sentent victimes du côté des parents? Qui veut répondre à ça, Yannick Flory?
Alors, la pression des parents, effectivement, elle est présente. Mais
vous la ressentez, vous, quand vous faites de la médiation familiale?
Bien sûr, c'est souvent pour ça qu'on vient, d'ailleurs. Quand il y a un problème de communication avec les ados, c'est l'une des premières interventions qu'on a dans les foyers. La pression, malheureusement, elle n'est pas que familiale. Elle va être aussi sociétale, si je puis dire, dans les établissements scolaires, principalement. Et on a une nouveauté, maintenant, en 2017, depuis quelques années, c'est, tout à l'heure, vous en parliez, c'est les réseaux sociaux. On a cette ambiance qui se passe pendant les cours. Elle nous suit à la maison. Avant, quand on était à la maison, on rentrait dans notre petit cocon, on était tranquille chez nous. Et non, maintenant, on n'a plus cette vie qui s'arrête. Elle est continuellement H24 sur les ados. Et donc, du coup, oui,
donc,
la pression.
Sous le regard des autres, des pairs, PAIRS, en permanence. C'est une autre forme de pression, effectivement.
Il y a ça. Et puis, il y a aussi la peur du jugement de l'adulte. Et donc des parents, où nous, on reçoit beaucoup, beaucoup de jeunes qui disent « Non, mais de toute façon, tout ce que je peux dire va être retourné contre moi. À chaque fois que je dis quelque chose, ma mère ou mon père porte un jugement, dit « Mais pourquoi tu fais ça ? Mais tu ne devrais pas faire ci, mais il vaudrait mieux faire ça. » Et porte des jugements de « T'es feignant, tu ne travailles pas assez, tu t'habilles hum-hum. » Enfin, voilà. Donc, l'adulte porte beaucoup de jugements et l'ado, ça lui fait du mal, en fait. Et on ne se rend pas compte, en tant qu'adulte, à quel point les jugements qu'on porte sur eux atteignent vraiment leur estime d'eux-mêmes. Et un ado qui a une mauvaise estime de lui-même, c'est un ado qui n'a pas envie de parler après, et c'est propice à l'épanouissement, à l'ouverture et à avoir envie de partager.
Je dirais même, en fait, la fin de l'adolescence a aussi signifié par cette crainte du jugement. Elle disparaît, en fait, à la fin de l'adolescence. C'est l'un des marqueurs.
Je suis moi-même, c'est tout.
Exactement. agir et penser par soi-même, sans chercher la confrontation comme on pouvait essayer de le faire avant, à vouloir débattre avec ses parents. Et c'est là souvent qu'il y a le problème, c'est qu'on a des parents qui continuent d'imposer en fait à leur ado, et alors qu'ils ont un peu maintenant sur le raisonnement abstrait de tout ce qui peut se passer. Et on prend par exemple, j'aime bien souvent employer l'histoire d'un biscuit qu'on coupe en deux pour donner à un petit garçon ou à une petite fille de 7 ans. Ils vont comprendre l'équité, mais par contre, enfin l'égalité plutôt, mais un adolescent, si on le coupe en deux, lui il va pas comprendre cette égalité, il va chercher à comprendre derrière l'équité, pourquoi séparer en deux, est-ce que cette personne a mieux agi que moi, etc., etc.
On en reparle dans 3 minutes juste après le journal. Comment communiquer avec son adolescent, appelez-nous surtout au 33 1 84 22 61.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, un sujet éducation comme chaque vendredi, plus large encore. Il est surtout question de la communication avec les adolescents, vous savez, ces garçons, ces filles qui décrètent un beau jour que leur jardin secret doit rester verrouillé, qui se confient bien plus auprès de leurs amis d'un jour qu'auprès de leurs propres parents. Et c'est pas toujours facile à accepter, surtout quand les relations deviennent tendues à la maison. Je discutais il n'y a pas si longtemps avec un père de famille à Conakry qui me disait que son fils ne faisait plus rien à l'école et que quand il lui demandait pourquoi, puisqu'on essaye de trouver une raison, et bien silence intégral, discussion totalement bloquée. Alors comment faire? Les voisins, est-ce que vous arrivez à communiquer avec votre enfant devenu adolescent? Comment acceptez-vous sa recherche, vous disiez indépendance, émancipation, l'un et l'autre dans le studio? Si vous ne savez plus comment en tout cas communiquer avec votre adolescent, appelez-nous tout de suite au 33 1 84 22 71 71. Nous en discutons avec nos invités Audrey Hacoun et Yannick Floury qui en connaissent un rayon sur les jeunes et les adolescents. Nous accueillons Lucien qui nous appelle en direct de Dakar. Bonjour Lucien.
Oui, bonjour.
Emmanuel.
Emmanuel, ouais. voilà.
Vous êtes un père de famille, c'est ça, vous êtes père de famille, vous avez trois enfants, Lucien.
Oui, tout à fait. Deux filles qui sont à l'université.
Oui.
L'aîné a 22 ans aujourd'hui, la deuxième a 18 ans. Et j'avoue que je suis un peu perdu, et soit c'est à cause de la génération d'aujourd'hui ou quoi. Je ne sais pas tellement comment dialoguer avec les enfants ou bien avoir des rapports sains avec les enfants.
Oui.
J'ai connu, moi, une enfance très, très rigide de par mon père.
Oui.
Alors, quelque chose que je n'ai pas voulu repercuter,
oui.
Que je suis adulte.
Oui. Donc ça veut dire vous avez lâché un peu du lest et vous avez privilégié, voilà. A priori, le dialogue pendant toute l'enfance de vos enfants.
Tout à fait.
Et là, il n'y a plus rien. Elles sont parties, il n'y a plus rien.
Non, elles sont là avec moi. Mais j'ai l'impression qu'elles me prennent pour leur petit frère.
Vous avez l'impression que quoi, vous dites, Lucien?
Qu'elles me prennent pour leur petit frère, qu'elles me négligent, qu'elles... J'ai l'impression... qu'elles ne prennent pas pour leur père, avec toute l'autorité possible. Alors, dois-je crier? Dois-je m'énerver?
Mais ça se traduit comment? J'arrive pas bien à comprendre. C'est une forme de désinvolture ou c'est au contraire un mutisme? Elles ne vous racontent rien de ce qu'elles font. Qu'est-ce qui vous agace? Qu'est-ce qui vous inquiète, Lucien?
Voilà, une forme de désinvolture. Une forme de désinvolture, je pense que c'est ça. Vous avez l'impression que... L'enfant ne vous regarde pas, ne vous considère pas comme le papa, ne vous considère pas.
Audrey, allez-y.
Ne vous considère pas l'autorité qui vous est dite. Oui, je suis un peu perdu, je ne sais pas s'il faut continuer à maintenir ces rapports-là.
Audrey Hacoun, bonjour Lucien. Bonjour Lucien.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous arrivez encore à avoir des moments sympas avec vos filles, de faire des choses avec elles, des choses qu'elles aiment, de les emmener faire des activités ou de passer du temps, même si c'est regarder la télé ensemble, ça peut être sympa aussi, d'avoir vraiment des moments de plaisir en dehors des choses d'autorité, de t'as travaillé et comment ça se passe les notes à l'université et non tu sors pas, et de mettre des... Est-ce que vous avez des moments comme ça avec elles, vous arrivez à créer des petits moments de complicité, à faire des activités plaisantes?
Bon, j'avoue que plus tellement, c'est vrai que quand je rentre, je suis un peu fatigué, je suis devant ma télé, je suis devant mes matchs, Champions League et tout, j'aime pas qu'on me dérange.
Ouais.
Ça crée peut-être un écart entre moi et les enfants.
Alors moi, je vais vous donner juste un petit conseil.
Alors en même temps, bon, des filles à l'université, elles sont aussi censées quand même avoir leurs activités leur côté.
C'est sûr, ouais.
Ne serait-ce que le repas familial.
Ce qui peut être sympa, oui, le repas. Ou parfois, en dehors, il faut sortir de la cellule familiale et de la routine et du train-train quotidien et juste de prévoir individuellement, peut-être avec chacune, une heure dans la semaine ou même parfois une demi-heure avec elles, de dire, viens, on va aller se promener ou viens, on va aller prendre un café dans Dakar ou on va aller au restaurant, un restaurant que t'aimes bien, ou faire une activité que t'aimes bien, regarder un film que elles aiment bien. Vous voyez, de faire un premier pas vers elles, vers des choses qu'elles aiment, pour recréer du lien, parce que c'est dans ce lien-là que vous allez rediscuter avec elles. Peut-être qu'il va se dire des choses ou peut-être qu'elles ont des griefs
parce
envers
que là,
vous.
Si on appelle vos filles, Lucien, on va pas vous demander leur numéro de téléphone, mais elles vont dire, mon père le soir il est fatigué, je parle pas avec lui.
Certainement. Non, finalement. Mais parfois, ça tient à pas grand-chose, vous savez, Lucien, ça tient à quelques moments vraiment privilégiés. Et je pense que les enfants, et même les adolescents, et même les adultes, devenus adultes, nos enfants, ont besoin de moments privilégiés où on peut vraiment profiter l'un de l'autre.
Donc séparément, prendre moment pour chacune de ses filles.
Oui, même si c'est qu'une demi-heure.
Ouais. Yannick Fleury.
Pour les aider, pour aider les parents à avoir plus d'affinité et d'échanges avec leurs ados, ce qui est intéressant, c'est de s'engager dans une pratique éducative de co-responsabilité, en fait. Les rendre responsables de tout ce qui peut se passer au sein du foyer, par exemple, comme leur demander d'aller faire les courses, de leur donner de l'argent, en disant, t'as tel budget, il faut faire à manger pour nous cinq, pour les trois prochains jours, etc. Leur donner un petit peu une ouverture d'esprit sur ce qui peut se passer aussi au sein de la famille et de la maison, ça leur permet d'avoir après des échanges au niveau de la famille sur des actions qui se passent.
Alors en tout cas, rassurez-vous Lucien, vous n'êtes pas le seul hein, dans ce cas-là. Abdoulaye à Conakry nous vient de poster ce message. À l'adolescence, les filles se confient à leur mère, les garçons à leur père en général. Seulement moi, je suis papa et mon fils ne me dit plus rien. Je lui ai proposé une sortie pour lui montrer que je suis un papa cool. Il a fini par se confier à moi sur ce qu'il se passe en classe et avec ses amis. Donc, il ne faut pas penser que le verrou est si verrouillé
non,
que cela.
C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Parfois, une sortie et une activité plaisante.
Vos filles vont se demander qu'est-ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui lui arrive ? Alors, passez le moment de surprise. Elles vont forcément accepter si vous proposez une activité sympa. Et vous allez voir, ça va très bien se passer. Bonne journée, Lucien. Bon courage.
Merci,
ne vous inquiétez pas trop. Ça n'a pas l'air si grave que cela. Bonne journée. Biche à Washington nous dit aussi, dans la société africaine, l'enfant n'a pas souvent le droit à la parole ou de donner ses opinions. Moi, je trouve ça triste, nous dit Biche, parce qu'il est très important de laisser une personne s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cadre et plus d'autorité, bien sûr, à ne pas confondre. Hein. Donner ses opinions ne veut pas dire être impoli. Souvent, j'ai l'impression que les gens confondent la peur au respect. Voilà, une bonne mise au point. Beaucoup de messages aussi à Madou, qui nous dit, qui est à Conakry, quand on est ado, on pense avoir tous les droits. Et le problème en Afrique, c'est qu'on laisse l'enfant livrer à lui-même en lui disant que c'est comme ça qu'il découvrira le monde. Conséquence, il devient délinquant et la société manque cruellement de sécurité. N'exagérons pas quand même.
C'est un peu extrême.
Rihanna, qui est à Tananarive, à Madagascar, nous dit qu'il faut laisser ses ados vivre leur vie, avoir leurs problèmes. Oui, on a vraiment des interprétations et des points de vue très différents. Et surtout, il faut se mettre à leur place, se souvenir qu'on a aussi été adolescent et que tout va bien maintenant. C'est ce que vous nous disiez finalement, Yannick Fleury.
Exactement.
Nos ados ne sont pas fous, ils sont juste nouveaux dans la société, timides ou agressifs parce qu'ils cherchent leur place.
On est tous des anciens ados, il ne faut pas l'oublier ça, c'est important.
Et on a survécu.
Oui.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons une voisine qui nous appelle de Barcelone en Espagne. Bonjour Camille.
Oui, bonjour Emmanuel, merci.
Nous vous écoutons.
Ben écoutez, je suis belle-mère et maman à la fois, maman d'un petit garçon de 4 ans et demi. Et belle-mère d'une fille de 13 ans que j'ai connue, elle avait 3 ans. Donc toute la partie instinct maternel quand elle avait 3 ans et mon fils n'était pas encore né a été formidable, très enrichissante. Et maintenant qu'elle est adolescente, c'est très complexe parce que comme belle-mère, je me retrouve un peu out. Je ne sais plus comment me situer parce que j'ai plus cet instinct maternel. Maintenant, elle est plus indépendante, plus grande. Et donc, c'est toute la complexité de ou déserter le terrain, comme dit une psychologue qu'on avait consultée, ou être là alors que le conflit, il est évidemment d'adolescent avec son papa et sa maman. Donc, que font les beaux-pères et les belles-mères ?
pas simple. Audrey Acoun.
Mais c'est bonjour. C'est vrai que c'est pas simple et c'est vraiment une question qui revient très très souvent dans les consultations. Alors moi je suis pas pour l'optique de déserter complètement le terrain parce que la relation, surtout si ça fait 10 ans que vous êtes avec cette jeune fille et que vous la suivez et que vous avez partagé sa vie, il n'est pas question de déserter la relation, mais de continuer à entretenir une relation. En revanche, c'est vrai que au niveau du cadre, c'est à vous de fixer des limites qui pour vous sont infranchissables, mais 2-3, pas plus, de ce que vous ne pouvez pas accepter. Et pour le reste, vous la renvoyez à ses parents. Mais c'est de continuer à avoir une bonne relation avec elle.
Vous êtes belle-mère, mais votre belle-fille a bien une maman également ou pas ?
Absolument, elle est 7 jours avec nous, 7 jours avec sa maman.
Ça. Non, n'endossez pas trop le fardeau.
Donc c'est de partager le fardeau et de ne pas de vous mettre tout le temps vous en première ligne et en premier front du conflit parce que c'est vraiment pas agréable et puis c'est pas votre rôle non plus. En revanche, faut quand même garder cette relation, surtout si vous la désirez et qu'elle peut être plaisante par ailleurs.
Oui. Oui, c'est pas facile parce que le père en même temps soit m'accuse d'abandon, soit m'accuse d'être trop omniprésente. Donc on se retrouve avec le conflit avec l'adolescent et avec le papa aussi qui a une relation qui doit se resituer.
Et ben c'est peut-être c'est peut-être au papa aussi de faire le point sur lui, sa relation et sur lui son rôle de parent et surtout enfin voilà, quand on fait des consultations en éducation et en accompagnement parental, le mot d'ordre, c'est la cohérence entre les adultes responsables et qui ont l'autorité. S'il n'y a pas de cohérence dans le couple parental, et même beau-parental, hein, même quand il y a un beau-parent, s'il n'y a pas de cohérence, l'enfant s'engouffre dedans. Il prend toutes les failles.
C'est ça, il n'y a pas, finalement, je dirais, pour rassurer un peu, il n'y a pas de mauvais parents. Il n'y a pas de père idéal, il n'y a pas de mère parfaite en soi. Il faut savoir poser le curseur, en fait, entre... ce qui est bien et ce qui est mal pour l'éducation de nos enfants. Éduquer, c'est aussi parfois improviser. Ça peut faire peur, mais malheureusement, c'est un peu le mot. Il faut rester calme, il faut rester dans l'échange avec eux, il faut être à l'écoute, il faut savoir avoir des échanges détendus, sains. Tout à l'heure, on en parle au niveau des échanges. Le fait de voyager côte à côte, par exemple, en voiture, aide à discuter, dans une discussion frontale en face à face.
Beaucoup de gens racontent qu'effectivement en voiture il se passe beaucoup de choses. Hein, quand l'adolescent est sur la place du passager devant, avec son papa ou sa maman qui conduit, c'est un moment où il se passe de la communication.
On n'est plus sur un échange frontal, on n'est plus sur un jeu de regard qu'il peut avoir vis-à-vis de ses parents en fait.
Merci beaucoup de nous avoir appelé Camille, ne perdez pas espoir, ça va s'arranger forcément et puis surtout déchargez-vous et partagez les problèmes avec le père et la mère. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, c'est Fayala qui a 30 ans et qui nous appelle de... Vous êtes à Doko, Fayala, c'est bien ça ?
C'est à Doko, Emmanuel.
Oui, vous êtes en Guinée, hein, c'est bien cela.
Oui, c'est bien ça.
Nous vous écoutons, Fayala.
Oui, Emmanuel, lorsqu'on est ado, l'on pense avoir toujours raison, même si l'on a tort. Et lorsque l'on nous rappelle, l'on est tupu. Et l'on fait tout à sa guise. Lorsque les parents sont inexpérimentés et qu'ils sont excédés souvent par l'attitude de l'ado, l'ado est souvent brimé et violenté, et même dans son droit. Hein. C'est face à cette situation d'incompréhension, moi, je voudrais savoir comment entretenir une relation saine avec un ado. Parce que comment comprendre son attitude afin de mieux communiquer avec lui.
C'est ça, Fayala. Vous avez appelé parce que vous n'êtes pas encore père, hein, si j'ai bien compris. Mais c'est par rapport à votre neveu qui a 7 ans. Alors évidemment, pour l'instant, il n'est pas encore adolescent. Mais vous voulez anticiper l'adolescence pour continuer d'avoir une très bonne relation avec lui. Pour l'instant, ça se passe très bien avec lui.
C'est ça.
Alors, est-ce que d'ailleurs les problèmes de communication avec un adolescent, ça s'anticipe ? Vous disiez au début de l'émission, Yannick Floury, que ça se passe, c'est du jour au lendemain que la communication se trouve parfois bloquée.
Alors non, c'est pas réellement du jour au lendemain, mais c'est petit à petit, c'est qui mène effectivement que du jour au lendemain, on arrive à se dire mince, qu'est-ce qu'on fait, comment j'agis, je n'arrive plus à tenir, je n'arrive plus à répondre à ces assez insolence, à tout ce qui peut se passer. Là, sur un enfant de 7 ans, si tout se passe bien, pour l'instant, il n'y a pas réellement de soucis à se poser en soi.
Est-ce qu'une bonne communication avec un adolescent, ça se construit les années précédentes ?
Oui, bien sûr, effectivement. Il faut savoir poser, tout à l'heure, comme je le disais encore une fois, le curseur. Il faut être un adulte référent. Il faut pas faire copain avec, chercher à être ami avec son enfant, avec son ado pour essayer de lui correspondre et pouvoir échanger des choses qu'il peut vivre lui avec ses amis.
Oui, alors installer une proximité tout en, bien sûr, sachant...
maintenant le cadre.
Voilà, en maintenant le cadre.
Mais c'est vrai,
ça s'appelle
le
fil du rasoir. Hein.
C'est ça, mais c'est aussi, ça se construit dès la naissance, en fait. C'est le premier... Moi, je dis toujours ça aux parents, je dis, la première fois que vous avez vu votre enfant, c'était le plus merveilleux, le plus beau du monde, il était génial et vous espériez des grandes choses pour lui. Et petit à petit, malheureusement, parfois, on perd ce regard-là parce qu'il y a la pression de la société, la pression de l'école, la pression des notes, la pression du groupe. Et on commence à rentrer dans un regard négatif, on peut porter des jugements négatifs sur lui et du coup, couper la communication et être dans l'injonction, dans
donc,
le cadre.
Retrouver ce regard émerveillé qu'on avait sur le nouveau-né,
aussi, c'est ça en dépit,
en dépit faire renaître la communication.
Oui, en dépit des difficultés. C'est pas le monde des bisounours de dire tout va bien, il n'y a pas de difficultés. Mais c'est qu'en dépit des difficultés, c'est de voir cet enfant-là comme un être humain avec ses faiblesses, mais avec ses forces, avec ses talents, et de miser sur ce qui marche bien. En France et en Afrique notamment, je connais bien l'Afrique, on a beaucoup tendance à pointer du doigt tout ce qui va pas et tout ce qui est négatif et tout ce qui ne va pas. Alors qu'en fait, si on pointe du doigt ce qui va mieux, bah, ça marche mieux.
Mamadou nous appelle de Bamako, Mali. Bonjour Mamadou.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous avez 22 ans, donc plus vraiment adolescent, mais quoique.
Oui. Oui, en fait, j'ai eu des problèmes de communication quand j'étais ado.
Oui.
Le problème est que je ne connaissais pas mon rôle et ma place dans la famille.
Oui.
J'aurais vraiment voulu que mes parents soient plus compréhensifs et restent à l'écoute et qu'ils croient à mes rêves. Mais voilà, je voulais dénoncer la réalité à Bamako. Les enfants et les ados, ou plus vieux, nous sommes juste condamnés à faire ce que nos parents veulent. Mmh. Oui, moi, quand j'étais à l'école, au lycée, je partais à l'école, je revenais à la maison, mes parents ne me suivaient pas, il n'y avait ni surveillance à la maison. En ce moment, j'étais perdu. Je ne savais pas quoi faire de ma vie, quoi faire du bac même. Quoi.
Ah oui.
Oui, nous étions nombreux. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer une association, Je suis je gagne, pour venir aider à ces enfants qui sont perdus au lycée, qui veulent se retrouver, de venir en aide à eux. Mmh.
Parce que vous, à 22 ans, bien sûr, vous pouvez tisser ce lien avec ces enfants qui ne parviennent plus à communiquer avec leurs propres parents. C'est ça, finalement.
Oui, voilà, c'est ça, suffisamment. Pour que ces enfants et ses parents soient proches et que ses parents soient proches de leurs enfants mais et que le rêve de leurs enfants.
Vous dites, mes parents ne croyaient pas à mes rêves.
Oui, parce que moi, quand j'avais un rêve, je disais que je vais travailler en douane, faire ce genre de choses. Mes parents disaient que non. Et d'être un joueur, ne travaille pas dans ce genre de service. Être un joueur, cela veut dire que tu pars à l'école pour passer du temps. Après, tu vas faire des métiers.
Oui, c'est-à-dire qu'on décidait à votre place, finalement.
Voilà, on décidait à mon place. Mon avenir était dans la main de mes parents, mais pas dans ma main.
Bon, et vous avez repris votre destin en main, Mamadou, visiblement, en tout cas, pour nous appeler comme ça en direct et nous en parler si bien.
Oui, oui.
Yannick Flory.
Je voulais savoir tout simplement comment vous avez fait pour reprendre votre destin en main. Là, vous avez 22 ans, si j'ai bien compris, vous occupez d'une association qui aide les adolescents, c'est bien ça ?
Oui.
Comment vous êtes dit de votre côté, comment vous êtes sorti en fait de cette problématique familiale ?
Bon, en 20 ans, je me suis assis un jour, j'ai vu ma réalité en face, j'ai dit que mais tous ces problèmes, quand j'avais 18, 17 ans, mes parents n'étaient pas là à l'écoute. Bon, j'ai réalisé tout ça et voir mes amis aussi, que dans leur famille, il y avait l'un de mes amis que ses parents étaient à l'écoute. Chaque fois, ils étaient avec leurs parents. Il y a dit, pourquoi moi, je n'étais pas comme ça avec mes parents.
D'accord.
C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que je voulais...
Est-ce que votre génération, vous pensez, Mamadou, va changer avec ses propres enfants ou pas?
Bon, moi, je vois quand même, c'est une réalité ici que c'est très très difficile d'être toujours avec ton enfant et de rester à l'écoute, mais notre génération future qui est en venir, je vois que ça va beaucoup changer ici parce que les gens sont maintenant à l'écoute Et puis les gens pensent beaucoup à leur famille et eux, au futur de leurs enfants aussi.
Ouais. Merci beaucoup Mamadou de nous avoir appelé. Il y a aussi Michel à Brazzaville qui nous dit en Europe la communication avec les adolescents se passe souvent bien parce que les droits des enfants sont garantis et respectés. En Afrique, ça ne se passe pas bien parce que les parents peuvent faire ce qu'ils veulent des enfants. L'enfant reste l'enfant de ses parents, même une fois adulte. Bon, en même temps, on reste toujours l'enfant de ses parents. Hein. Il ne faut pas non plus caricaturer. Et puis il y a Jackie Atana qui nous dit la meilleure solution pour communiquer avec son ado, c'est de développer une relation fusionnelle dès le plus jeune âge de l'enfant. Il faut lui montrer que tu es son parent, mais aussi son meilleur ami. Il faut, je vous vois affoler Audrey. Il faut l'écouter, se montrer compréhensif, attentif et ne jamais réagir de manière excessive.
Oui, alors sur la dernière partie, oui.
Relation fusionnelle pour communiquer.
Ça, non plus. Fusionnelle, c'est l'inverse, c'est tout l'inverse. Parce que ce qu'on remarque, c'est que les parents qui ont été en relation fusionnelle dès le plus jeune âge avec leurs enfants, au moment de l'adolescence...
C'est le pire.
Mais c'est le pire.
Et il y en a beaucoup en Europe, il faut bien le dire. Tout de
ah oui, bien sûr.
Vous
oui,
avez
oui,
énormément
oui.
de cas comme ça.
Et c'est là où vient aussi la souffrance des parents. C'est, pour le coup, c'est qu'on était fusionnels, on se racontait tout, ils me disaient tout. Et là, du jour au lendemain, ils décident d'arrêter tout ça.
C'est vécu comme un abandon, comme... Exactement. Trahison, enfin c'est terrible. Et c'est aliénant pour l'enfant en fait, parce que moi je rencontre des enfants qui ne veulent pas quitter non plus le nid familial, même arrivé adulte, parce qu'ils ont peur de laisser leurs pauvres parents tout seuls. Et ça c'est
le pas syndrome le but de l'adolescence.
Mais
en
oui,
fait.
Mais c'est pas le but de l'éducation. On élève nos enfants pour qu'ils nous quittent et qu'ils aillent découvrir le monde.
Alors, dernier conseil, si votre adolescent est muet, scotché à l'écran de son smartphone au lieu de vous raconter sa journée, comment faire? Les derniers conseils avant qu'on se quitte pour établir, essayer de garder en tout cas un contact, tout en admettant qu'il y a désormais une porte qui s'est refermée à l'adolescence, un jardin secret des adolescents qui n'est pas malsain.
Tout d'abord, avec toutes les nouvelles technologies, faut fixer des règles. Il faut, comme dans tout le principe de l'éducation, faut fixer des règles. Il y a ce qui est négociable et ce qui n'est pas négociable. Le téléphone, ça fait partie des règles négociables. À négocier avec son adolescent, ça évite les conflits derrière. Donc fixer des horaires, aménager des temps d'utilisation du téléphone, ne pas hésiter à laisser le téléphone dans le salon le soir où il va se coucher pour être sûr et certain qu'il décroche finalement de ce monde extérieur alors qu'il est à la maison. On a, ça fait partie des règles qui peuvent être négociées.
C'est un problème que vous retrouvez tout le temps et qui pollue réellement la communication avec les parents.
Bien sûr, mais j'irai même plus loin, malheureusement, c'est plus un problème seulement lié à l'adolescence. Vous allez au resto, vous regardez autour de vous, vous voyez des adultes, des couples qui sont face à face au restaurant et qui regardent leur téléphone.
Chacun sur leur smartphone et des parents, et c'est vrai que nous c'est ce qu'on dit aux parents, je dis mais comment vous voulez réguler les portables de vos ados
si vous-même vous venez, ados,
bah, oui, si vous-même vous venez à table le soir avec votre téléphone portable.
Voilà, et ben ça sera le mot de la fin, ou presque pour vous, en tout cas pour le sujet des adolescents. Dans quelques instants, les adolescents commentent l'actu et tout particulièrement la campagne présidentielle. Ça sera dans quelques secondes.
Oh yeah. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Les ados commentent l'actu, ça c'est jusqu'au résultat de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, à 2 jours du premier tour, c'est l'heure des pronostics avec des lycéens dans le 20e arrondissement de Paris, du quartier des Hortos, du quartier Hortos. Ils avaient très envie qu'on cite leur quartier. C'est au micro d'Alice Milot.
Mélenchon, je crois qu'il va gagner. Mélenchon.
Ce serait plus Fillon ou Marine Le Pen, à mon avis.
Toi, gros. Comment Marine Le Pen, gros?
C'est eux qui vont gagner, eux qui seront premiers. Mais moi, je suis personnellement pour Mélenchon.
Pourquoi toi, t'es personnellement pour Mélenchon?
Parce qu'il paraît correct. Comment il réfléchit, il est plus proche du peuple que les autres candidats.
Moi, je suis plus pour Benoît Hamon.
Ah, Benoît Hamon.
Pourquoi?
Pour les shit.
Parce qu'il va peut-être légaliser le cannabis et baisser les prix des kebabs. Il faut aller plus loin que ça, il faut approfondir ses recherches, pas pour du cannabis ou pour des kebabs qu'on va se vendre à lui, quoi. Il faut quelque chose de plus concret, quoi.
On veut pas Marine Le Pen, en tout cas, ça c'est clair.
Parce qu'en fait, elle veut expulser les démunis et elle veut interdire le port du voile. Elle-même, elle dit qu'elle est raciste.
C'est pas bien pour les gens qui viennent ici pour trouver du travail.
ils sont expulsés. Si ils viennent ici, c'est pour fuir leur pays. Bah en misère, c'est contre
la guerre.
Youssouf, il a pas les papiers. Et j'ai pas envie de le voir partir.
Un élève de ton collège?
Non, moi je suis pas dans le collège, moi, mais c'est mon copain. Et c'est, ça a été très dur pour lui au début. Il savait pas très bien parler français, mais là il sait bien parler français. Donc non. Voilà, j'ai pas envie de le voir partir.
Peut-être qu'elle parle, mais quand elle sera élue, peut-être elle va rien faire.
Ou peut-être que ce sera comme le président des États-Unis. Elle va vraiment tenir ses propos et elle va nous la mettre dans le fiat.
Mais madame, moi j'ai une question. Est-ce qu'un président d'un autre pays qui est plus président, on peut l'élire? On va dire là, Obama, s'il vient en France, il peut se présenter? Ah ben dommage. D'ici Obama, il pouvait se présenter, j'aurais voté pour lui. Parce que lui, c'est un bon mec. Bon, j'avoue, il n'a pas tenu quelques de ses promesses, mais il en a tenu beaucoup.
Alors que Hollande, pas du tout, tout ce qu'il a dit, il n'a rien tenu. Et au contraire, il a légalisé des choses que personne ne veut. On a voté pour la gauche pour qu'il soit plus proche de nous, mais à la fin, c'est comme si on a voté pour la droite et même pire.
François Hollande, il a apporté l'école le mercredi, alors qu'on voulait
il,
pas
il
ça.
Il avait pas dit qu'il allait mettre du truc à la cotus menteur, voilà, il est trop fort lui.
Non. Moi en tout cas, si Marine Le Pen elle monte au pouvoir, je vais tout faire pour faire une manifestation et faire des gros dégâts des eaux ici. Même si Mélenchon il passe pas, j'aurais voté juste pour la gauche, comme ça Marine Le Pen elle passe pas, juste pour lui bloquer ses votes.
Voilà,
j'aurais
ouais,
tout fait. Pareil. Et j'aurais influencé mes amis et ma famille à aller voter. Et une fois, ça peut changer, hein, ça peut tout changer.
Vous allez tous voter quand vous serez plus grand?
Bien sûr, obligatoirement. Ouais. Et celui-là qui vote pas, je le tire par les oreilles.
Bon, avant les prochains dégâts des eaux, prochain rendez-vous avec les ados, entre les deux tours. Merci en tout cas à vous, Audrey Hacoun.
Merci.
Vous avez publié Apprendre autrement avec la pédagogie positive. Et puis il y a le blog La Fabrique à Bonheur. Yannick Floury, coaching éducatif chez Pascal Maquin Coaching. Et puis merci aussi à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Camille Néran, Hugo Violas, Raphaël Lazizi. On se retrouve lundi pour 7 milliards de voisins. Ça sera le rendez-vous des tchatcheuses. Et comme chaque mois, je reçois trois femmes journalistes de trois coins du monde. Lundi, nos tchatcheuses seront maliennes, arméniennes, russophones, je le précise, et portugaises. Et comme ça, évidemment, forcément, ça commentera le premier tour de l'élection dans toutes les langues, ou presque. Voilà. Merci à vous tous de votre fidélité et rendez-vous lundi. Très bonne fin de semaine sur RFI. Dans quelques secondes, ce sera le journal sur Radio France Internationale.